Le marathon des mots présente une année 2020, août. Didier Goupil, Aurore. Chère Aurore, j'ai beau t'écrire aujourd'hui, je ne te connais pas. Je viens d'entendre ton prénom à la radio, mais je ne te connais pas. Je ne sais si tu étais brune, blonde ou rousse. Si tu avais une profession, des activités, des passions, des projets, des rêves ou de bonnes résolutions pour l'avenir. Je ne te connais pas. J'ignore tout de ton enfance, de l'adolescence qui a été la tienne. Je ne sais rien de tes études, de ta famille, de tes amours. Je ne te connais pas. Ce que je sais de toi, je viens de l'apprendre de la voix du journaliste à la radio. Tu as 40 ans, tu habites le quartier Maurepas à Rennes et tu as deux enfants, deux jeunes garçons de 4 et 7 ans. Le voisinage te décrit comme très sympathique et très introverti, mais sous l'emprise de ton mari. Ton mari, un dénommé Richard, un grand gaillard d'1m90 avec une sacrée voix, mais dont le regard était malsain et connu pour s'emporter facilement et te battre régulièrement. Il pratique la boxe thaïlandaise et il a eu plusieurs fois maille à partir avec des jeunes du quartier. Une fois, il est même descendu en gants de boxe pour en découdre avec eux. Il a déjà été condamné pour violence en 2015 et on le soupçonne d'être responsable de la grave chute que tu as faite dans les escaliers, quelques mois plus tard, et dont tu as eu bien du mal à te remettre. Souvent, tu sentais les crises venir. Il buvait, le ton montait pendant des jours, puis un soir comme hier soir, il se mettait à te frapper en t'en hurlant dessus. Tu as tenté d'alerter sur le danger qu'il représentait. Plusieurs fois, tu as même pris ton courage à deux mains et en cachette, tu as téléphoné à la police. En vain. « Vous savez, madame, » t'a-t-on à chaque fois répondu, « on ne se déplace pas tant qu'il n'y a pas de sang. » C'est un joli prénom, Aurore. On voit se lever la lueur brillante et rosée qui précède le lever du soleil. C'est un prénom qui annonce l'aube, le commencement de la vie, la naissance de l'amour. Pourtant, cette nuit, peu avant 2h du matin, c'est lui, Richard, qui cette fois a appelé le commissariat. Au fonctionnaire de service qui a décroché, il a simplement dit, d'une voix blanche, qu'il t'avait poignardé à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Il aurait tout aussi bien pu t'étrangler, te défenestrer, te frapper à coups de poing, à coups de marteau ou à coups de pierre, te tirer une balle dans la tête, puis pousser ton corps sans vie sous le canapé du salon, ou bien te descendre dans le local au sous-sol de l'immeuble, emballé dans un sac poubelle, et te fourrer avec le bout de ses chaussures dans le conduit d'évacuation des eaux usées. Comme c'est arrivé depuis le début de l'année à Cécile, Salomé, Natacha, Priscilla ou Dounia. Tout ont crié. Certaines se sont débattues, défendues. Quelques-unes ont même essayé de fuir par la fenêtre ou par le balcon. D'autres se sont mises à genoux et ont supplié. D'autres encore ont appelé au secours. Mais toutes, pour finir, ont été assassinées. Massacrées serait plus juste, par celui qui se prétendait leur mari, leur compagnon, leur amant ou leur soi-disant prince charmant. De ton côté, tu savais bien que cela t'arriverait un jour. Tu avais prévenu tes voisines, tes amis. Tu l'avais même confié à tes parents lors du dernier repas de Noël. Depuis qu'ils t'avaient confisqué ta carte bleue et ta pièce d'identité, tu savais qu'ils ne te laisseraient jamais partir et que tout ça allait mal finir. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir de particulier? Le repas, qui ne lui a pas plu? Les chamailleries des enfants, qu'il t'a reproché? Ou bien, comme cela lui arrivait souvent quand il cherchait la dispute, il t'a soumise à la question « Qu'as-tu fait en mon absence? Dis-moi la vérité. À quoi tu penses ?» À rien. Non, je te crois pas, tu penses forcément à un truc. Les enfants que tu avais enfermés dans leur chambre avant que ça ne dégénère n'ont rien vu. Mais, prostrés sous leur lit, leur doudou dans les bras, ils ont entendu, tout vécu. Ce sont les secours qui les ont trouvés, en pleurs, incapables de prononcer le moindre mot. Dans le salon, pendant ce temps-là, un pompier penché sur ton visage meurtri te demandait d'une voix basse, presque douce, « Aurore, Aurore, est-ce que tu respires encore ?» Ton prénom, Aurore, a résonné dans l'air ensoleillé de cette fin d'après-midi d'été avec la violence d'une déflagration. dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août, à Rennes, Ille-et-Vilaine. Aurore. Je me suis redressé du hamac dans lequel j'étais installé, j'ai posé le livre que j'étais en train de lire et j'ai tendu l'oreille. Aurore, 40 ans, a été poignardée par son compagnon dans leur appartement. Malgré intervention des pompiers, elle n'a pas survécu. C'est le 62e féminicide depuis le début de l'année. Le 62e depuis janvier. Géraldine, Christelle, Ninon, Marine, Carole, Myriam, Cécile, Salomé, Natacha, Priscilla, Dounia. Vous avez tous les âges et toutes les conditions. Tellement de visages, tellement de noms. Ce n'est plus un fait divers, c'est une hécatombe, un massacre, une chasse aux femmes, non plus vues comme des êtres humains, mais comme des objets de haine, de mépris ou d'appropriation. Le confinement n'a pas aidé, et le huis clos s'est révélé particulièrement propice aux violences domestiques. En temps normal, les femmes ont une vie sociale, des lieux où elles peuvent se réfugier, elles vont au travail, voient leurs amis. Pendant le confinement, ou comme maintenant durant l'été, il n'y a plus rien de tout cela. Et elles se retrouvent enfermées entre quatre murs, en tête à tête avec leur futur assassin. Chaque jour qui vient est alors une porte qui ouvre sur le vide. Jeudi 13 août, une dispute a éclaté au domicile d'un couple de Chevilly, Loiret. Touchée au ventre, la victime n'a pu être sauvée. Samedi 15 août, c'est une Lyonnaise de 37 ans qui est morte. Son ex-conjoint, connu pour violence, avait l'interdiction de l'approcher. Dans la nuit du 19 au 20 août, c'est à ton tour, Aurore, d'être sacrifiée. Est-ce parce qu'à entendre ton joli prénom, on voit se lever la lueur brillante et rosée qui précède le lever du soleil ? Qu'elle nous est comme une promesse de l'aube à venir, du commencement de la vie ? Est-ce parce que tu habitais Rennes et que moi-même j'y ai vécu et enseigné une dizaine d'années ? Que mon fils y est né ? Ou, plus simplement, est-ce parce que c'est l'été, un drôle d'été, un été à la maison, et que pendant que j'écoute le flash d'info qui m'informe de ton trépas, je regarde ma fille, 12 ans, presque 13, aller et venir dans le jardin en maillot de bain, longue, fine, l'arrondie de ses épaules nues dorées par le soleil, pleine encore de l'innocence de l'enfance? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que je me suis saisi de mon ordinateur et j'ai commencé à lire les dépêches AFP qui annonçaient ton décès. Je voulais en savoir plus, avoir des détails, pouvoir me faire une idée précise de ta vie, de qui tu étais, du pourquoi de la chose. Mais elles étaient bien laconiques, on aurait dit des fiches anthropométriques. Et je me suis mis alors à suivre, au gré des pages web qui défilaient, le parcours tout aussi tragique de Cécile, de Salomé, de Natacha. Au fil de mes lectures et au milieu de cette macabre liste, j'ai tout à coup songé que j'aurais pu aussi bien rencontrer une femme portant le prénom de ma fille, Alice. À 12 ans, presque 13, Alice est à l'aube de l'amour. Avec sa mère, on n'a pas su si elle avait un amoureux cette année au collège, mais ce ne saurait tarder. Elle a beaucoup grandi ces dernières semaines. Ses points de vue dans les discussions sont plus affirmés. Son corps s'épanouit, dessinant peu à peu la jeune fille qu'elle va devenir. Elle prend soin de ses cheveux, de sa peau, se vernit les ongles et se met du ricin en douce quand sa mère a le tourné. Et puis, surtout, à la fin du printemps, elle a eu ses règles. Ses premières règles. Des règles rouge sang, de ce sang originel qui fait les femmes. Ce n'est pourtant encore qu'une enfant, même si elle mesure déjà son 1m70 et qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, c'est toujours une enfant. Une enfant qui aime faire des blagues, faire du shopping avec ses copines ou se caler dans un coin à regarder une série sur sa tablette. Je n'ignore pas que, sous cette apparente innocence, la jeune fille est en train d'éclore. La fleur en train de s'ouvrir. Et nous voyons bien, avec sa mère, combien d'hommes dès à présent se retournent sur son passage ou la fixent du regard quand ils la croisent, la dévisageant comme si elle était déjà une femme. Bientôt, d'ici la fin de l'année sans doute, elle aura son premier amoureux. Puis elle aura l'âge d'avoir un petit ami, un compagnon, des amants, un mari peut-être, ou même plusieurs, à la recherche qui sait du soi-disant prince charmant. Toi aussi, Aurore, tu as eu 12 ans, presque 13. Toi aussi, comme Alice, tu as passé des après-midi entiers à te baigner dans la piscine, l'arrondi de tes épaules nues dorées par le soleil, sous le regard bienveillant de ton père étendu dans son hamac, les yeux mi-clos, profitant de l'ombre et du léger vent dans les feuillages. Toi aussi, tu étais prête à enfourcher ton vélo au moindre prétexte, à jouer des heures au badminton, à t'inventer des chorégraphies que tu répétais sans relâche devant un public imaginaire, avant de les présenter en spectacle, le soir à tes parents et à tes frères, ne manquant pas de rougir à leurs applaudissements. Toi aussi, Aurore, comme Alice aujourd'hui, Tu as été à l'aube de l'amour. Ton corps s'est épanoui, tu as pris soin de toi, mis du ristil à tes yeux. Toi aussi, comme elle bientôt, la tête pleine de rêves, tu as commencé à regarder les garçons, puis tu as désiré à ton tour que les garçons te regardent et te trouvent belle, intelligente, charmante, qu'ils t'envoient des mots doux et des baisers, qu'ils te promettent des caresses et de l'amour. Comment entendre alors ? Et comment expliquer à sa fille que les bras de son amoureux peuvent l'enlacer, mais tout aussi bien l'étrangler, la caresser comme la molester ? Qu'il arrive dans la vraie vie, et plus fréquemment qu'on ne le pense, que le prince charmant cogne sur la belle au bois dormant, et que papa tue maman. Aurore. Aurore, est-ce que tu respires encore ? Devrais-je, en tant qu'homme, demander pardon pour les crimes commis par mon genre ? Ne doit-on plus parler de crimes passionnels, mais de crimes possessionnels ? Faut-il sérieusement en arriver à ce que chaque femme ait son propre garde du corps ? Il n'est pas facile d'être un enfant de nos jours. Le réchauffement climatique, l'extinction des espèces animales, les attentats terroristes, la pollution des mers et des océans, n'en jetez plus, la poubelle est pleine. Comment grandir dans un monde si abîmé, si peu porteur d'espérance ? Si en plus de tout cela, à 12 ans, presque 13, à l'âge où les petites filles deviennent des jeunes femmes, il vous faut prendre conscience que celui qui un jour se prétendra votre amoureux peut vous crier dessus, vous insulter, vous battre et pour finir vous tuer, c'est à désespérer. C'est comme si, d'une certaine façon, on vous annonçait la mort de l'amour et tout espoir de réconfort. Il le faut, pourtant. Et c'est toi, Aurore, aujourd'hui, toi et l'enfant que tu as été, jouant, dansant, riant aux éclats, qui m'y engage en ce jour d'été qui s'annonçait des plus paisibles. En effet, jusqu'alors, dans un réflexe sans doute trop protecteur, quand il s'est agi de Cécile, Salomé, Natacha, Priscilla ou de Dounia, j'avais pris l'habitude de faire diversion, engageant la discussion sur un sujet anodin, ou bien, lors des trajets en voiture par exemple, baissant sensiblement le volume de l'autoradio, comme si je ne voulais pas que ma fille entende, comme si moi-même je ne voulais pas entendre. Je sais maintenant qu'il nous faut la confronter à cette réalité, que je dois la mettre en garde contre la prédation des hommes, tenter de lui expliquer qu'on ne tue jamais par amour, mais par orgueil, par désir de domination, ou bien par haine de soi. Il n'y a pas de princesse ou de jeune fille au bois dormant, pas de prince charmant. La vie, pour les filles en particulier, est un sport de combat, une expérience de survie même. Et il faut qu'Alice sache, même si elle a à peine 12 ans, pas encore 13, que tant qu'il n'y a pas de sang, elle ne devra compter que sur elle-même. Je ne te connais pas, Aurore, et nous n'aurons désormais plus jamais l'occasion de nous connaître. Mais j'aimerais que tu saches que si dans cette lettre qui t'est adressée je t'ai tutoyé, c'est que comme Jacques Prévert, le poète des drames ordinaires, je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Aurore, est-ce que tu respires encore ? T'a demandé d'une voix basse, presque douce, le pompier qui s'est porté à ton secours, ce matin, un peu avant 2 heures, pendant que nous dormions. Oui ? Oui, Aurore, tu respires encore. Et j'aime à croire, en cette belle fin d'après-midi, que ma fille Alice, dont je vois la tête entrer et sortir de l'eau, tout à la joie de son enfance, en est la preuve. Une preuve vivante.